France Culture.
France Culture.
J'espère qu'on va garder ce coucou dans le début de l'épisode de Marianne, qui est un coucou tellement collector.
Le Book Club.
Out of me you grow a thorn or a rose. I smell roses now and pull out thorns.
Dans la bibliothèque de Pierce Faccini.
J'ai remarqué.
Dali, pareil. Dali, elle a dit
là,
ouais.
Ah, tiens, elle boit du coca.
Exactement, Dali vient. Donc, si j'avais pris un café, personne m'aurait jugé, j'en bois toute la journée. On est d'accord. Mais si je prends un café à 18h, c'est bien sûr, je me justifie, mais à la vôtre.
Marie Richeux.
Vivien, il me juge. Il a bien raison. Nous allons arpenter une bibliothèque aujourd'hui et nous avons précieusement choisi ce mot parce qu'il vous va bien, Pierce Faccini. C'est en arpenteur que vous évoluez sur les différents territoires de la musique, de l'art et des montagnes. Depuis vos premiers disques et jusque vos récentes collaborations, vos compositions et votre chant, vos mots sont comme des pas que l'on pourrait faire pour relier bien des pays, à commencer par ceux qui n'existent pas. Sur la pochette de votre dernier disque figurent deux Rossignols. Oiseau, poète et migrateur, votre voix s'y en mêle à la cora de Balaké Sissoko pour inventer encore un nouvel espace. Alors, quels livres nourrissent cet imaginaire? Vous allez nous raconter. Il apparaît en tout cas dans les textes que vous avez choisis que la sensation, mais aussi l'attention au son du monde et à ses échos vivants vous importe. Merci beaucoup Pierce Faccini de déballer votre bibliothèque pour le Book Club de France Culture et bienvenue chez vous.
Merci.
Est-ce que le mot arpenteur vous convient et depuis quand et par quel chemin vous arpentez les bibliothèques?
Moi, ça me va tout à fait parce qu'en plus j'habite un peu dans les débuts des montagnes, donc je passe ma vie à arpenter déjà la nature autour de moi. Et puis j'aime bien ce mot aussi parce que quand on est tout jeune et qu'on découvre les livres pour la première fois, il y a quelque chose de sacré dans une bibliothèque, dans une maison, et étant tout petit, qu'il y avait des livres qui étaient trop hauts pour moi. Donc, il fallait que je prenne une chaise, puis après, je les comprenais pas forcément. Mais en tout cas, oui, arpenter, ça me va complètement. Ouais.
Oui, puis d'emblée, il y a aussi l'idée de grimper pour aller voir le livre qu'on a aperçu là-haut et que peut-être on ne comprend pas.
Oui, et puis je pense qu'on connaît tous ça dans ces lieux, dans notre enfance. Il y a des livres que j'ai vus de loin. Peut-être que je les ai jamais pris, en fait, parce qu'ils étaient soit trop hauts, ils étaient quelque part pas accessibles dans tous les sens, quoi.
Ça veut dire que vous grandissez avec des livres autour de vous?
Oui, je grandissais avec des livres autour de moi et mon père était pathologiste, médecin, chercheur et ma mère dentiste. Mais c'était des passionnés de peinture, de musique et de littérature. Donc oui, j'ai grandi vraiment avec des livres autour de moi et depuis toujours. Et puis, une chose, je pensais à ça en marchant vers la maison de la radio aujourd'hui. Je pensais à mon père qu'à chaque fois qu'on parlait de quelque chose et qu'on n'avait pas exactement le détail de ce que c'était, il disait toujours « prends l'encyclopédie ».
Pareil,
quoi.
Pareil à la
et
maison.
Du coup, réflexe. Là, c'est le Google de l'époque.
De
quoi.
L'époque.
Et donc l'encyclopédie.
L'encyclopédie.
Ouais, c'était important aussi. Et puis après, je pense que tout petit, les premiers livres, à part les histoires qu'on me lisait, les premiers livres ne sont pas des livres où j'étais attiré par les mots, mais c'était des livres d'histoire de l'art, et surtout de la Renaissance et de la pré-Renaissance. Et moi, je passais des heures et des heures sur les tapis du salon, là où il y avait la bibliothèque, et je prenais ces livres et je regardais les visages et je partais, quoi.
Est-ce que c'est ça qui vous fait ensuite réciter le nom des peintres lorsque vous vous trouvez dans les églises en Italie et
mais
que vous connaissez
complètement.
Absolument ceux qui ont peint, que vous regardez avec
complètement.
Attention?
J'étais un petit nerd de la Renaissance et du coup les livres c'était génial parce que j'avais toutes les références parce que on allait voir ces églises et je rentrais, je voyais ces peintures pour de vrai, les fresques, mais après quand on rentrait à la maison, en fait je pouvais les revoir dans ces livres. À l'époque on faisait des très 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 beaux livres, des séries surtout les peintres italiens de la Renaissance, enfin que j'ai encore, en fait j'ai hérité de ces livres. Donc ça, c'est précieux pour moi.
Vous mentionnez donc ces gros livres d'histoire de l'art, votre fascination pour la peinture, mais aussi les allers-retours. Je trouve ça assez beau dans une vie d'enfant, que ce soit possible de se rendre compte qu'il y a le monde et qu'on peut revenir aux livres et qu'ensuite on peut retourner au monde, enrichi de ce qu'on a appris dans les livres. Qu'est-ce qui est peut-être la seconde étape de votre parcours de lecteur ?
Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, en fait, quand on lit, quand on est petit, on apprend à regarder le monde, en fait. Pour moi, c'est que ça. Donc, on apprend un langage et on apprend aussi un langage moral, spirituel, esthétique, une sensibilité, une façon d'être touché par un regard par le monde, par ses personnages. Je pense que les premières histoires qui m'ont vachement touché, j'étais obsédé par la mythologie, donc j'avais tous les bouquins sur tous les mythes de tout le monde, en fait. Donc j'avais les mythes grecs, j'avais les mythes norse, j'avais les mythes chinois, indiens, enfin, ça c'est vraiment les premières lectures où on a cette chose qu'on connaît tous, voilà. Quand on est enfant, quand on plonge complètement, il n'y a rien d'autre qui existe à part des histoires. Et toute cette émotion, quand souvent, voilà, si les histoires, ça se passe pas bien, qu'on est bouleversé. J'ai vu ça dans mes propres enfants, c'est extraordinaire de voir ça. Quand son propre enfant est bouleversé par une histoire, on se dit « Alléluia ».
C'est vrai, oui, ça vous importe en tout cas.
Ah ouais, mais je me dis, mais quelle magnifique expérience, en fait, d'être touché par une histoire autant qu'on en verse des larmes, quoi.
Est-ce qu'il y a des étapes importantes dans votre vie de lecteur après ça, Pierce Faccini ? Est-ce que vous avez découvert des auteurs, des autrices ?
Je pense que les premiers bouquins qui m'ont touché vraiment enfant, en fait...
Ou plus tard, hein, ça peut être...
Si on reste dans l'enfance...
Si on reste un peu dans l'enfance ?
En tout cas, c'est les histoires... genre Jack London, par exemple. Ça, c'est... Je parlais de verser des larmes. Là, j'ai versé des larmes, quoi. C'était extraordinaire. J'ai trouvé White Fang, Call of the Wild. J'ai adoré ça, quoi. Et puis après, je suis parti...
Petite parenthèse, vous citez les titres de Jack London en anglais parce que vous les lisez en anglais.
Parce que je les lisais en anglais, bien sûr. Je les lisais en anglais. Et ensuite, c'était... Bon, c'est drôle rétrospectivement, mais je suis parti en pensionnat en Angleterre.
À quel âge ?
J'avais vers 10 ans. Et là, je suis tombé sur Nicholas Nickleby de Charles Dickens. Et en fait, quand je lisais le livre, je me disais, tiens, j'ai la même expérience, quoi. En fait, Nicholas Nickleby, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre dans cette école qui était hyper dure, très disciplinaire, très froide, aucune émotion, enfin, vraiment, espèce d'éducation à l'anglaise, old school, quoi.
Et c'était un réconfort de pouvoir avoir
c'était
une sorte de miroir.
Oui, c'était un réconfort parce que c'était là, parce qu'on cherchait de survivre émotionnellement, en fait, dans cet environnement assez abusif, quand même. Et donc, le dénouement de cette histoire, j'étais avec ce personnage, quoi. Il fallait qu'il réussisse parce que c'était comme moi, en fait.
Ouais. Il y a quelque chose dans la puissance d'identification qui est souvent évoquée par nos invités, c'est-à-dire le moment où ils comprennent qu'ils peuvent trouver dans un livre une représentation d'eux-mêmes, un miroir plus ou moins déformant, qui est quelque chose de très fort.
Ah, je pense que c'est exactement ça.
Le narrateur de Dickens, pour vous, à ce moment-là, c'était ça.
Oui, complètement. Et puis, c'est un peu aussi ce que je disais, c'est-à-dire que on rentre dans la vision de quelqu'un d'autre. Et toucher cette vision devient la nôtre. C'est-à-dire, c'est comme un filtre ou un masque qu'on prend et nous, on voit le monde de cette façon-là et elle nous émeut, quoi. Et ça, je pense que une fois que ça c'est en place, c'est un espèce de
mécanisme, on sait.
Ouais,
faire,
c'est un
quoi.
Mécanisme, ouais. C'est un prisme qui va dégager de la lumière, qui va juste fonctionner, quoi.
Est-ce que vous écriviez déjà à ce moment-là, 10, 11 ans?
Non, j'écrivais pas encore. Je dirais que j'ai commencé à écrire les premières chansons, les premiers textes que j'ai écrits, c'était vers 14-15 ans, je pense.
Est-ce que la lecture de certains textes aurait pu vous orienter vers l'écriture ou c'est autre chose qui vous a orienté vers l'écriture de chansons ?
Je pense que c'est assez drôle parce que ça continue encore aujourd'hui, c'est que je lis aussi beaucoup les
paroles
de chansons, exactement. Donc là, je lisais beaucoup de paroles de chansons, déjà, de groupes très différents, parce que bon, j'adorais la plume de Morrissey, du groupe The Smiths. Je trouvais qu'il écrivait incroyablement bien, ça me touchait énormément. Mais j'étais aussi extrêmement fan de Bob Dylan, et donc je lisais toutes les paroles de Bob Dylan. Après, j'ai découvert Joni Mitchell, Leonard Cohen. Il y a un truc, quand je sors un album, pour moi, c'est indispensable. Il faut toujours qu'il y ait les textes dans l'album. Mm. En parlant de lecture, ben moi, quand j'achetais des disques, quand j'étais teenager jusqu'à aujourd'hui, si j'achète un disque...
Le livret, quoi.
Le livret, et quand j'entends la chanson pour la première fois, il y a des paroles, je veux lire les paroles en même temps, quoi.
C'est marrant parce que finalement, ça dit votre attachement à cet objet-là, d'une certaine manière, Pierce Fachini. C'est-à-dire que le livret, c'est un petit livre, le mot l'indique d'ailleurs.
Exactement. Ouais, c'est une carte écrite de ce qu'on entend. Et puis après, la particularité du chant, c'est qu'il y a des chanteurs qui chantent incroyablement bien, mais qui ont décidé de ne pas forcément aller dans une diction très claire, parce qu'ils veulent emmener leur voix instrumentalement vers des sonorités où ça va nuire un petit peu l'intelligibilité du texte. Et donc c'est là, le livret, pour moi, il est super important.
Si on vous retrouve dans votre vie de lecteur, donc à la fois on pourrait dire, allez, il y a une image de 10-11 ans, Dickens, et puis 14-15 ans, vous lisez peut-être les recueils des textes de Bob Dylan, enfin vous débrouillez, Leonard Cohen ou les Smiths. Si on vous retrouve peut-être plus jeune adulte, vers 20 ans ou vers 30 ans, est-ce qu'il y a d'autres moments qui sont importants dans votre vie?
Oui, complètement. En fait, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, c'est-à-dire qu'on lit beaucoup quand on fait l'équivalent du bac, c'est les A-levels en Angleterre, donc on lit énormément de littérature, mais on lit ça dans un contexte scolaire, académique, hyper froid en fait. Et donc on lit ces choses-là, mais... C'était comme s'il y avait un truc que j'accrochais pas quand je lisais ces romans ou ces monuments de la littérature. Et en fait, bon, moi j'étais un petit peu bad boy, donc j'étais renvoyé d'une grande école quand j'avais 17 ans. Et je me rappelle que le moment où je suis parti de cette école, je me suis dit, je sais pas comment j'ai compris ça en fait. J'étais précoce, mais dans ce sens-là, j'ai compris que le moment où j'ai quitté le sein académique, là, je pouvais commencer à lire. Et il y a même plein de bouquins que j'avais lus dans un contexte académique.
Et que vous avez repris.
J'ai repris. Et donc après, très vite, j'avais un grand frère qui étudiait la littérature à l'université. On s'écrivait énormément de lettres. Donc ça, c'était...
Parce que vous étiez éloigné?
Ouais, parce que lui, il était à Édimbourg et moi, j'étais à Londres, et puis après, il est parti, il était à Paris, après, il est parti à New York étudier, enfin. Et donc, on avait une énorme correspondance de lettres entre nous. Et en fait, lui, il m'a introduit à des choses qui ont été une grande influence pour moi, c'est-à-dire qui ont accompagné le choix que j'avais fait des peintres que j'adore, qui étaient à l'époque les grands, genre Giacometti, Morandi, Francis Bacon. Et en même temps, j'ai découvert donc Antonin Artaud, j'ai découvert...
qu'il vous conseillait de les lire?
Ouais, absolument.
Genre donc, à la fin d'une lettre, tu devrais, Pierce, procurer ce bouquin?
Ouais, il disait, il me récrivait la lettre et puis il me parlait de...
J'ai lu ça
et il me dit, il faut que tu lises la trilogie de Beckett, like Malloy, Malone Dies, The Unnameable... ou Antonin Artaud pour en finir avec le jugement de Dieu, tout ça.
Et vous y alliez systématiquement?
Ah ouais, non, mais complètement. C'est mon grand frère, je l'adore. Donc,
vous avez gardé cette correspondance?
Alors c'est drôle parce qu'on en parlait l'autre jour, on a des cartons de cette correspondance un peu fou, quoi.
Mais c'est beau quand même.
Ah, c'est magnifique. Et c'est vraiment aussi ce moment où je suis sorti d'un espèce de milieu académique, je suis allé totalement assumer mon côté autodidacte. Et donc, quand Dominique, il me disait, mon frère s'appelle Dominique, quand il me disait, lis Beckett ou lis Artaud, ou lis, je te conseille de lire Anti-Oedipe de Guattari et Deleuze, je les lisais.
C'était
quoi.
Costaud quand même, c'était pas des petits conseils quand même.
Ah non, mais nous, on était à fond, quoi, on était à fond.
Et après, vous lui disiez, j'ai lu et je t'en parle.
Ouais, puis ça m'a, parce que moi, j'étais plus peintre à cette époque-là, j'étais vraiment, vraiment peintre, et donc je passais mes journées à peindre, et en fait, je faisais mes propres recherches aussi, en parallèle, c'est-à-dire c'était pas que des recommandations de mon frère, et du coup, en parallèle, j'ai commencé à regarder les dessins d'Artaud, j'allais vers l'art brut, j'étais très fan de Dubuffet aussi.
Et vous lisiez dessus? C'est-à-dire que c'était pas que fréquenter les œuvres d'art, il y avait aussi...
C'est surtout, en fait... Je me rappelle, j'avais une dispute avec un ami qui a été à Cambridge à l'époque, qui étudiait la philosophie. Puis en gros, lui, il m'a dit, mais toi, tu peux pas lire de la philosophie parce que tu sais pas penser académique. T'as pas appris à penser et à analyser. Et moi, je disais, mais en fait, c'est toi qui peux pas lire la philosophie, parce que toi, t'as seulement ta méthode, mais tu lis pas avec tes tripes. Moi, je lis avec mes tripes. Donc, je me défendais quand même. Donc, il y avait ce truc-là, et je pense que je l'ai... Encore une fois, c'est ce truc d'assumer.
Avec quelle intuition vous vous défendez? Parce que c'est pas facile de pouvoir soutenir ça, de pouvoir comprendre que, bien sûr que oui, il y a un rapport à la lecture qui peut être tout à fait autre que celui qui a été le fruit d'un enseignement ou d'un parcours
académique. Parce que dans mon école et dans cette institution, on a essayé d'enlever une façon de réagir et de dialoguer avec le monde de façon émotionnelle.
Donc vous l'avez
et corporelle.
Défendu.
Et je l'ai défendu et j'ai été renvoyé. Donc ils m'ont rejeté et j'ai...
Ça vous a renforcé d'une certaine
manière. Ça m'a renforcé et je m'en réjouissais de cette issue. Et je considérais que... Eux, ils considéraient que j'étais quelqu'un qui avait échoué.
Et vous, c'était
mais
votre
moi,
force.
J'avais vaincu, quoi. Ouais. Je les avais battus. Et donc, the heart, c'était avant tout le cœur, quoi. C'était... Et l'émotion et les tripes. Et du coup, quand je rencontrais le copain qui était philosophe, qui écrivait, qui était absolument brillantissime, eh ben, j'avais quand même assez d'arrogance, peut-être un peu d'arrogance quand même, mais
oui,
de
mais
penser que lui, il n'avait pas compris un truc. Même s'il comprenait tout mille fois mieux que moi, l'essentiel de quelque chose, je l'avais compris, lui, pas encore.
Est-ce qu'il y a une autre étape qu'on doit évoquer pour faire le tour de la question de votre vie de lecteur avant qu'on puisse
après,
aller vers vos choix de texte?
Après, je dirais que j'ai eu un grand moment de plongeon dans quelque chose que j'ai vraiment choisi moi-même, qui est les textes, par exemple, de William Burroughs, The Red Knight Trilogy, tout ce qui était un peu magic realism. Je suis devenu obsédé par Murakami, j'ai tout lu de Murakami. Ça, c'était très important pour moi. Et puis ensuite, le truc... Après un moment, je me suis un peu lassé des histoires et j'ai commencé à lire beaucoup de poésie essentiellement. Et donc, ça a rejoint un moment où c'est comme si j'avais eu trop d'histoires. Les histoires, je voulais les mettre de côté. Et donc, j'avais une fascination pour les poésies soufies, les poésies Chan, le début du bouddhisme en Asie, la pensée non dualistique, l'Advaita Vedanta, les poètes comme Rumi, Hafez, tout ça. Et je pense que c'est vraiment ça qui dans la petite histoire, ça, peut-être ça ferme le cercle, quoi.
Et on va les retrouver tout à l'heure parce que ça fait partie des choix de textes que vous avez décidé de partager avec nous. On fait une toute petite pause avec un extrait de votre nouveau disque, Moonful Moon.
Is black, snap to track, a fade is in the ground. She crossed the ridge onto the breach, the valley bright toward the night that only visions reach. Mournful moon with a silver rays, stealing time. The dark heart of the rock. But I was there, the eagle too, the shadow stone alone to roam, surrender to the sun. Stealing time.
Culture. Le Book Club. Dans la bibliothèque de Pierce Faccini. Marie Richeux.
Et on arrive dans le deuxième temps de ce portrait de bibliothèque, Pierce Faccini. C'est un moment où on vous a demandé, comme à chacun de nos invités, chacune de nos invités, de choisir 5 extraits que vous vouliez bien partager avec nous. Alors, vous évoquiez le moment de peintre de votre parcours, votre rapport à la peinture. Vous disiez aussi que votre grand frère, parmi les choses qu'il vous suggère de lire, j'ai entendu passer l'Anti-Oedipe, donc il y avait Deleuze et Guattari. Le premier choix de texte, c'est un texte de Gilles Deleuze, en rapport avec la peinture et particulièrement avec le sujet de la figuration. Est-ce que vous voulez le lire ou le commenter avant? Dans quel sens?
Ouais, je pense que c'est bien de le lire.
Le lire avant
premier.
Alors allons-y.
Donc c'est Logique de la sensation, donc c'est un livre qu'il a écrit sur la peinture de Bacon. Donc Bacon, c'était vraiment mon obsession, quoi. C'était le peintre que j'adorais le plus et que j'allais même... un peu l'espionner quand il buvait des coups à Soho, à Londres, parce que je connaissais un peu les coins où il traînait. Mais bon, je suis un grand, grand amoureux de la peinture de Bacon.
Alors, on vous écoute pour Logique de la sensation, 1981, Gilles Deleuze.
Il y a deux manières de dépasser la figuration, c'est-à-dire à la fois l'illustratif et le narratif. Ou bien vers la forme abstraite, ou bien vers la figure. Cette voie de la figure, Cézanne lui donne un nom simple, la sensation. La figure, c'est la forme sensible rapportée à la sensation. Elle agit immédiatement sur le système nerveux, qui est de la chair. Tandis que la forme abstraite s'adresse au cerveau, agit par l'intermédiaire du cerveau, plus proche de l'os. Certes, Cézanne n'a pas inventé cette voie de la sensation dans la peinture, mais il lui a donné un statut sans précédent. La sensation, c'est le contraire du facile et du tout fait, du cliché, mais aussi du sensationnel, du spontané. La sensation a une face tournée vers le sujet, le système nerveux, le mouvement vital, l'instinct, le tempérament, tout un vocabulaire commun au naturalisme et à Cézanne. Et une face tournée vers l'objet, le fait, le lieu, l'événement. Ou plutôt, elle n'a pas de face du tout, elle est les deux choses indissolublement. Elle est être au monde, comme disent les phénoménologues. À la fois, je deviens dans la sensation et quelque chose arrive par la sensation, l'un par l'autre, l'un dans l'autre. Et à la limite, c'est le même corps qui la donne et qui la reçoit, qui est à la fois objet et sujet. Moi, spectateur, je n'éprouve la sensation qu'en entrant dans le tableau, en accédant à l'unité du sentant et du senti. La leçon des Cézanne, au-delà des impressionnistes, ce n'est pas dans le jeu libre ou désincarné de la lumière et de la couleur que la sensation est au contraire, c'est dans le corps, fût-ce le corps d'une pomme. La couleur est dans le corps. J'adore parce que Bacon, ce qui me fascinait, c'est que lui, il avait tout un jeu quand il peignait. Il fallait que le hasard, quelque chose du hasard, prenne la main sur le pinceau et qu'il y a un événement qui arrive que lui, il pouvait pas mentalement faire ou imaginer. Il y a un accident. Mmh. Donc lui, il utilisait le mécanisme de l'accident. Et en fait, c'est ça que Deleuze, il parle. En fait, il parle du fait que il y a un moment, une image, ça peut être un des portraits de Bacon, un de ces personnes qui étaient ses modèles. Et ben, en fait, il y a un moment, ce n'est plus la personne illustrée, c'est la personne incarnée, ou c'est la trace de quelque chose d'incarné.
Ou sa force vitale, pour reprendre
sa force vitale. Et là, on sait pas comment il est arrivé à faire ça. C'est comme un geste chamanique, c'est non mental, ce n'est pas de l'ordre de la pensée binaire, on pourrait dire. Pour moi, c'est pas dualistique, quoi. Et donc, Bacon, ce que j'adore chez lui, c'est son génie, parce qu'il avait des limites en termes de technique, de peintre, mais son génie, c'était de comprendre ça et de mettre en place tout un procédé dans sa peinture pour arriver à ce que lui, il appelait « the brutality of fact », la brutalité du fait. Et donc lui, il parlait de Velázquez, en disant que dans Velázquez, oui, on voit Innocent X ou ses portraits du roi, mais ce qu'on voit, c'est comme une gifle de quelque chose qui est absolument propre au corps et à la sensation du corps, la vitalité d'un corps, et donc aussi à la mortalité, à la mort. Et je pense que...
Qui outrepasse très largement des enjeux de figuration. C'est bien au-delà de ça.
Exactement. Et c'est tellement... Donc du coup, bah, ça en lien évidemment avec le corps sans organes d'Antonin Artaud. Enfin, et on pense aussi au texte d'Artaud sur Van Gogh, le suicidé de la société. Je crois que ça... Et donc ça, c'était des lectures qui étaient très importantes pour moi. Et ce qui fait que dans ma peinture, j'ai choisi ce qui est de plus difficile et peut-être que j'ai jamais vraiment arrivé du coup parce que c'est tellement difficile, c'est qu'on a l'impression qu'on échoue tout le temps parce que il faut détruire le contrôle de la main en fait. Il faut et je continue dans tout ce que je fais, même en musique.
En musique aussi, c'est ce que j'allais
ouais,
dire.
Ouais, en musique aussi et en texte quand j'écris, ben en fait, je cherche toujours une espèce de lâcher prise comme une espèce de moment de transe où les mots elles vont juste descendre en moi, où la mélodie elle va juste apparaître presque de nulle part. Et la rêverie, je parlais beaucoup de rêverie quand j'étais enfant, cette rêverie d'enfant, je l'ai cultivée, c'est une technique et je l'utilise à chaque fois que j'écris. Et si j'ai pas cette même sensation dont il parle, Deleuze, en fait, non illustratif, eh ben, je peux faire qu'une chanson où j'ai l'impression qu'il y a une valeur.
Sinon, il ne faut pas qu'il y ait trop de sens, par exemple, ou que le sens ne soit pas du côté de l'illustration ou de la figuration.
Ouais, c'est comme cette chanson, en fait. Mournful moon with her silver rays. Je suis dans la danse des mots, donc il faut que ça coule dans la bouche, quoi. Et il faut que ce soit imagé, mais j'ai aucune idée comment m'est venue cette phrase et pourquoi elle va si bien sur cette espèce de ternaire très, très africain. C'est tout ça qu'on travaille et pendant des années et des années, à avoir ces moments où ça se libère. Et donc, Bacon, pour moi, c'est lui qui lance la trame. Et puis, même si je ne comprenais pas tout...
Vous, à quel moment vous lisez ça?
C'est-à-dire que j'ai lu entre 19, 20, 21 ans, par là. Je commençais à lire Mille Plateaux, Anti-Oedipe, Artaud. J'étais un jeune homme assez sérieux. C'est pas grave, je comprenais ce que j'arrivais à comprendre, mais en tout cas, ça a été une trame importante pour moi.
Vous les avez repris, ces textes-là? L'Anti-Oedipe, les Mille Plateaux, le texte de Deleuze sur la peinture? Vous continuez à les fréquenter?
En fait, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, parce que je me suis replongé dedans parce que, en fait, il y a 5 ans, on a acheté une ruine dans les Cévennes avec ma femme, Lavinia. Et en fait, on l'a retapée. Et donc, pendant 3-4 ans, tous nos livres et tous les disques, ils étaient dans des cartons. Et là, l'autre jour, j'ai tout déballé. Un moment magnifique, quoi. On déballe les livres. Et là, c'est
incroyable.
Tous ces livres. Et en fait, ma femme, elle dit, allez, range les livres. Et moi, j'étais en train de les relire parce que on tombe sur des livres. On dit, ah, ça, c'est génial, faut que je le relise, quoi. Donc, tous ces bouquins-là sont là-dedans, quoi.
Vous vous êtes délesté lorsque vous avez préparé ces cartons pour partir dans les Cévennes? Vous vous êtes séparé de beaucoup de livres à ce moment-là, au moment d'entreprendre ce voyage? Cette nouvelle installation?
Disons que, en tout cas, l'idée d'une pause et le silence, c'est de plus en plus précieux pour moi. Donc, l'idée de mettre temporairement les livres dans les cartons, ça ne m'a pas du tout gêné.
Et au moment de mettre ces livres dans les cartons, vous vous en êtes séparé de certains?
Oui.
Dans votre précédente maison?
Oui,
voilà.
Oui, absolument.
C'était bien?
Ouais, parce que je pense que ça peut servir à d'autres et que je sais que je ne vais pas les relire. Mais tout ce que j'ai gardé, j'ai envie de les relire.
C'est précieux,
ouais. Ouais, parce que, en fait, je dirais 90% de ce que je le lis en anglais. Et je dois admettre que j'ai aussi... Je crois que j'ai Anti-Oedipe en français et j'ai Mille Plateaux en anglais, quoi. Donc j'ai même une traduction de... Donc j'ai plein de... Même Artaud, j'ai des versions en français et puis j'ai des traductions. Parce que j'étais à Londres à l'époque et on ne trouvait pas les originaux. Donc parfois, il y a plein de choses que j'ai relues ensuite en original, mais que j'ai connues en traduction.
Ça aussi, c'est quand même une sacrée aventure de lecteur. C'est-à-dire se dire, ok, je vais commencer par les Mille Plateaux en anglais, parce que bon, ils sont en anglais à Londres, et puis je vais les reprendre ensuite.
Ouais, mais c'est pour moi, jeune artiste, c'était un espèce de militantisme, quoi. Pour moi, c'est... Et puis, encore une fois, c'est parce que C'est dur à imaginer pourquoi, mais en fait, je me rends compte avec un peu de recul maintenant que c'est vraiment cette éducation hyper rigide à l'ancienne.
Vous respiriez d'un coup.
Ouais, et du coup, et surtout ce souffle, cet air que je respirais, où j'étais libre de penser et de sentir et de vivre, ben, c'était tout l'opposé de ce qu'on a essayé d'enlever de moi. Donc c'était pas juste « ouais, je lis Artaud » ou de Les Égouatari pour frimer, pour dire que je fais l'intello. Non, c'était, moi, je les lisais naïvement, autodidacte, avec naïveté, quoi.
Mais nécessité. Ouais.
Et quand je comprenais quelque chose, je m'en servais. C'était une nourriture. C'était une trame.
Deuxième choix se tourne vers une philosophe, éthologue, Vinciane Després. On va l'écouter, si vous le voulez bien, d'abord, dans une archive qui date de 2019. Elle est au micro de la Grande Table sur France Culture. Elle parle du chant du merle.
Alors, le chant d'un merle, c'était pour moi une expérience relativement bouleversante, dans la mesure où j'ai réalisé à quel point ce chant était compliqué. Et en même temps, ça c'était d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que si vous écoutez un chant d'un merle, vous allez remarquer très vite que la fin de chaque séquence est différente de la séquence précédente. Donc il va répéter les mêmes notes et puis une petite invention. Et une petite invention qui est adressée. Et donc moi ça m'avait déjà cognitivement bouleversé, je veux dire, j'étais pleine d'admiration. Puis c'était beau, c'était magnifique. Et puis il n'y avait pas que ça, il y avait le fait que j'étais émue parce que, en fait, je me souviens quand j'ai entendu ce merle, c'est un peu plus tard que l'enfance. Quand j'ai entendu ce merle, j'ai pensé à un truc un peu idiot, mais ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, bon Dieu, je crois que ce sont les merles qui ont inventé l'importance. Et tellement je sentais que quelque chose importait. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est Baptiste Morisot qui me l'a soufflé. Ce qui m'est arrivé, disait-il, affectivement, de sentir, d'être traversé, bouleversé, ému par le fait que quelque chose importe à un autre être, et peut-être le fait qu'il y a un fond ancestral commun entre les merles et nous. Mais très très lointain, mais peut-être pas très large comme fond, mais suffisant pour que quand quelque chose importe à un être qui est pourtant très différent de moi, je puisse le ressentir aussi sans du tout savoir de quoi il s'agit, juste savoir il y a quelque chose qui importe.
L'oiseau chante. Avez-vous déjà voyagé en train, un casque sur les oreilles? Avez-vous ressenti, comme j'ai souvent pu le vivre, que le paysage pouvait être bachien ou tchaïkovskien? À quel point la musique s'imprime, recouvre, affecte à ce moment ce qui nous entoure? Un accordéon dans le métro ne change-t-il pas non seulement l'humeur, mais la perception même des choses? Le monde devient non musical, mais mélodique. Et ce n'est plus une mélodie associée à un paysage, c'est la mélodie elle-même qui fait un paysage sonore. En d'autres termes, l'acte de territorialisation serait entre autres un acte de musicalisation d'une place. Je précise entre autres, parce qu'il y a également les postures, les rituels dansés, les menaces spectacularisées, les couleurs, les battements d'ailes et l'arpentage de l'espace. À observer un oiseau devenant territorial, on ne peut manquer les répétitions incessantes de ces arpentages. Comme les chants d'ailleurs, tout se fait dans la répétition. On l'a raconté tout au début, l'oiseau choisit un promontoire, puis se déplace dans un espace qui se constitue progressivement comme espace d'appropriation par des allées, des retours répétés, des arpentages rythmés. On peut penser que par ces arpentages, d'une part l'oiseau signale le territoire, d'autre part également il devient chez lui. Par la constitution d'une profonde intimité avec un lieu ainsi approprié et ses particularités, l'espace devient familier.
C'est votre deuxième choix, Pierce Faccini, et c'est un texte de Vinciane Després qui s'appelle « Habiter en oiseau » qui apparaît aux éditions Actes Sud Nature en 2019. Et juste avant, on entendait sa voix où elle parlait de l'expérience initiale qui a donné lieu à ce texte, où elle écoute le chant du merle. Ce que je trouve assez beau dans l'extrait que vous avez choisi, c'est le lien entre le chant et la territorialisation. Exactement. Qui n'est pas loin de ce que vous disiez de votre lecture des mille plateaux.
Ouais, mais complètement, en fait. Et donc, le livre, il est vraiment magnifique. Après, il est bien dense aussi. C'est un livre, faut bien se concentrer sur toutes les pages parce que c'est une recherche qui est extrêmement érudite, enfin, à mon sens. Mais après, ce que j'adore, c'est que le livre, il commence avec ce même type de description, c'est-à-dire elle décrit qu'elle est complètement bouleversée, en fait. Elle tombe amoureuse de ce champ de mer, elle est émerveillée. Et puis ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va analyser et récolter tout ce qu'elle peut trouver de la recherche scientifique sur le comportement et la territorialisation des oiseaux. Et puis, elle va les décliner, elle va l'analyser et vraiment le mettre devant nous et on apprend énormément de choses, mais c'est assez neutre comme ça. Et puis, petit à petit, elle fait ce portrait et on se rend compte, mais première chose, on se rend compte qu'on connaît pas beaucoup sur les oiseaux. Ça reste très, très mystérieux. Et puis après, elle décrit quelque chose que je trouvais très intéressant, c'est-à-dire que on ne peut pas découvrir quelque chose si on n'a pas la bonne question. Si on a la mauvaise question, eh bien, on ne peut pas arriver à ce fait-là, en fait. Et donc, il y a tellement de choses qui nous échappent, simplement parce qu'on n'a pas encore compris comment
adresser
la question. Donc ça, c'est génial. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, par exemple, par rapport au comportement des oiseaux. Après, bon, le livre, il finit avec elle, de nouveau, sur cette espèce de, voilà, chanson d'amour sur l'oiseau. Et là, c'est là où je la rejoins tout à fait dans ses descriptions. Et j'adore celui-ci parce que j'adore l'idée que quand on chante pour que le lieu devienne chez soi.
Ouais.
Ça, c'est magnifique.
Ouais.
Et aussi,
elle
l'idée
dit que territorialiser, c'est emmusiquer d'une certaine manière.
Ouais. Et puis aussi, ce que j'ai adoré qu'on comprend dans ce livre, c'est que le mot territoire, on ne parle pas de passeport et de frontières. Mmh. C'est pas ça, le territoire. Les territoires, c'est les champs qui sont à la fois visibles et invisibles et qui sont multiples. Et les oiseaux, ils ont tellement de territoires. Et c'est cette espèce de... Et en fait, quand je chante, eh bien, je suis aussi un peu comme cet oiseau-là. Et j'ai cette même sensation que quand je chante dans un théâtre, eh bien, pour être bien et toucher les gens, il faut que le chant et le théâtre deviennent mon territoire de chant. Pas
juste
mon
de ce moment-là.
Ouais, pas mon territoire personnel ou corporel. Mm. C'est-à-dire qu'il devienne le territoire du chant et que le chant soit un sort de chez-soi qui va ouvrir une porte émotionnelle aussi au public et on va partager ce territoire, en fait.
Quand est-ce que vous l'avez compris, ça? Quand est-ce que vous avez compris que chanter, c'est installer quelque chose dans l'air? C'est difficile de trouver des bons mots pour le dire, mais...
Non, j'aime bien installer dans l'air.
C'est faire du chez-soi, quoi. C'est fabriquer du chez-soi.
En fait, c'est étrange parce que au début, ça m'étonnait parce que j'avais tellement de trac et j'avais peur. Mais il y avait un truc étrange que quand je commençais à chanter, les gens, ils étaient, en anglais, on dirait transfixed. Ils étaient complètement pris, quoi. Comme si quelque chose s'arrêtait et il n'y avait que le chant. Et je ne sais pas, c'est une énergie, c'est un... Je ne l'ai pas appris, je pense que c'est juste quelque chose que j'ai peut-être reçu quelque part, mais comme l'oiseau, quand il chante absolument, sans aucune réserve, c'est hypnotisant. En fait. C'est ce que Vincent Després, elle décrit, quand le merle il se met à chanter, il chante tellement entièrement dans tout son corps, dans tout son être...
Que t'es pris.
Que t'es pris, et si tu n'es pas pris, bah, je suis désolé pour toi.
Troisième choix, c'est un texte de Jean-Marc Rochette, qui s'appelle « Au cœur de l'hiver ». Il a paru aux éditions Les Étages en 2024 et c'est le récit d'une hibernation. Est-ce que vous voulez nous dire un instant pourquoi vous avez choisi ce texte-là, Pierre Svacini?
Alors, j'ai choisi ce texte parce que, en fait, j'ai rencontré Jean-Marc Rochette assez récemment et aussi Christine Kam. Et aussi, ils ont aussi un récit que j'ai écrit dans leur maison d'édition qui s'appelle Les Étages. Et donc... avec Christine, on est en train de mettre en place un dialogue déjà sur peut-être ce livre illustré que je sortirai, j'espère, chez eux. Et donc, c'était l'occasion de plonger pour moi dans le livre de Jean-Marc, que je connaissais de réputation, mais je ne connaissais pas bien son travail. Et
donc rapidement, auteur de bande dessinée, notamment connu pour tout son travail autour de la montagne.
Ouais, elle voilà, froide. Très, très vite. Exactement. Et ce récit, il est hyper touchant en fait. C'est un récit où il décrit que pendant le début du confinement, dans une espèce d'environnement de fin du monde, lui et Christine décident de quitter Paris, ils fuient Paris, et en fait ils vont s'installer entièrement coupés du monde pendant 3 mois dans ce petit hameau qui s'appelle Les Étages, dans les
Alpes. Aucune route, enfin, vraiment, il y a de la neige partout, et ouais, c'est ouais, il faudra attendre que ça fonde. Quoi.
Exactement, donc pendant 3 mois, et c'est très touchant parce que à la fois la relation qu'il décrit, cet amour qu'ils vivent ensemble, mais ça me touche énormément parce que c'est comme si il se rend à la montagne en fait. Et ça je comprends vraiment en fait. Moi j'ai quitté Londres pour me rendre pas à une montagne aussi haute et aussi dangereuse peut-être, mais quelque part pour me rendre à la musique de la montagne et à l'énergie de la montagne, et ça dans ce récit, c'est en fait ce que j'aime bien, c'est que Jean-Marc Rochette, quand il utilise des mots, il l'utilise comme un peintre, comme un dessinateur. Il est dans une sorte de réserve.
Qu'il est par ailleurs.
Ouais, c'est ça. Mm. Mais j'aime bien parce que c'est comme d'une limite, quelque part, il le rend sa force. Parce qu'il a une espèce d'économie de mots. C'est un texte sans floriture, mais du coup qui est très chargé de sens et de poésie et de vérité. Parce qu'il est tout le temps face à la matière. Parce que quand on vit dans la montagne, on ne peut être que face à la matière. Et c'est très dramatique. Il y a même un moment dans son récit...
Un couple qui meurt.
Ouais, et puis il y a une avalanche qui passe, qui effleure leur maison, quoi.
Oui, il y a vraiment l'idée de se rendre à la montagne aussi dans la dimension où ils éprouvent l'un et l'autre le fait que leur vie est toute petite et qu'elle est...
Exactement.
Même si elle est très résistante, c'est aussi un récit qui montre que leur corps est résistant, que leur corps peut beaucoup de choses, mais leur corps peut aussi être emmené comme n'importe quel corps en 3 secondes et demie par la neige.
Je pense absolument, et puis après je pense que son parcours d'alpiniste, on est face à la mort, je pense que ça il le décrit dans son travail. L'ombre de la mort, elle est tout le temps là, quoi. Mais c'est ça que j'adore, c'est qu'au même temps, son émerveillement face à la nature, face à l'aigle...
Est au regard de la présence de la mort et de sa conscience de la mort.
Voilà, où c'est hyper touchant quand avec Christine, il soigne ce renard qui a, j'oublie, une espèce de peste. Ils arrivent à la soigner en laissant un peu de médicaments dans un peu de viande. Enfin, c'est un sort de miroir pour moi en termes de sensibilité. J'ai beaucoup de choses en commun avec sa façon de voir le monde.
Bah alors, un extrait ? Au cœur de l'hiver.
Le hameau est plongé dans l'ombre de début novembre à fin mars. Son ensoleillement est minimal et pourtant il semble baigné dans une lumière constante. Le secret de cette étrangeté, ici, ciel et soleil ont déjà des éclats de Méditerranée. Le massif des Écrins se situe aux alentours du 45e parallèle à la hauteur de Valence. Passer cette ville sur l'autoroute, on sait d'instinct que Marseille n'est plus très loin. On entre en Provence. Ainsi, pendant l'hiver, alors que le fond de la vallée reste dans l'ombre, le soleil irradie à pleine puissance les faces exposées au sud. Les pentes couvertes de neige réverbèrent les photons comme de gigantesques fours solaires. Des maelstroms de particules lumineuses rebondissent sur l'adret pour illuminer, par ricochet, les parois les plus austères de Lubac. Et c'est pendant mon séjour à Berlin que la lumière des Écrins a commencé à me manquer. Sous le ciel de zinc de l'Allemagne du Nord, je me suis souvenu avec nostalgie du bleu des sommets, ce bleu que j'avais longtemps poursuivi comme une chimère. Je croyais que l'alpinisme pouvait ouvrir une voie vers je ne sais quelle source sacrée. Je m'y suis cassé les dents. De la même manière, je pensais qu'il y avait en peinture une forme d'alchimie de la matière et que tout au fond de celle-ci existait une porte de sortie. J'y ai rencontré ma limite. Je ne sais pas d'où venait cette foi. En fait, j'adorais quand il parle du bleu déjà, parce que moi j'habitais à Londres, donc je connais tellement ce truc de cette espèce de truc qui me tirait quoi vers ce bleu et j'étais affamé de ce bleu que moi j'avais.
Et vous l'aviez connu où initialement?
En fait, en Italie, toutes les vacances quand j'étais petit, j'ai connu ce bleu et j'ai quitté Londres pour aller vivre dans les Cévennes. Pareil, on pense pas à la Méditerranée. Et au bleu de la Méditerranée quand on pense à les Cévennes, mais les Cévennes, les Sud-Cévennes, on est sud, même si on est dans la montagne. Et du coup, le bleu des Cévennes, de ce ciel, c'est exactement comme il le décrit là.
Et c'est marrant parce que tout à l'heure, vous mentionniez l'expérience quasi amoureuse que Vinciane Després vit avec le chant du Merle. Mais Jean-Marc Rochette, il raconte aussi très bien comment c'est un coup de foudre, c'est une histoire d'amour qui remonte à l'enfance. Il tombe amoureux de ce bleu-là et puis, en effet, il fait une expérience où il frôle plus que la mort, vers l'âge de 20 ans, je crois.
C'est ça, ouais, exactement.
Puis, il y a cette période à Berlin, et il retourne vers le bleu comme on retourne vers un amour. Il y a vraiment quelque chose de très...
Ouais, complètement. Et donc ça, je me suis tellement retrouvé dans ces mots. Et puis l'autre chose que j'ai adoré, c'est son premier amour, c'est la peinture. Donc il parle des peintres figuratifs... comme Soutine, des gens qui l'ont vraiment influencé, et qu'il rêvait jeune qu'il allait devenir ce genre de peintre, en fait. Et moi, pareil, quand je regardais Bacon, moi, je me dis, si moi, je veux être comme Bacon.
Oui, il dit qu'il a rencontré sa limite, en fait.
Oui, c'est-à-dire de sa limite, c'est devenu... Aussi, mais moi, j'ai aussi rencontré ma limite. Mon premier amour, c'était la peinture, et je voulais être Bacon, quoi. Et en fait, voilà, j'ai dû me réinventer ailleurs en faisant autre chose. Et donc ça m'a bien parlé, ça aussi. Quoi.
On va rester du côté du paysage avec le quatrième choix. C'est un texte de Clara Arnaud. Là aussi, c'est un texte récent, paru aux éditions Actes Sud en 2023. Et le texte s'appelle « Et vous passerez comme des vents fous ». L'extrait que vous avez choisi a vraiment à voir avec la capacité aussi de décrire par les mots l'observation d'un paysage, Pierce Faccini.
Ouais,
c'est quoi ce livre?
En fait, donc, Clara Arnaud, je l'ai rencontrée parce que j'ai fait récemment une musique de film pour Eliane de la Tour, un film qui s'appelle Animus Femina. Et en fait, elle a été aux premières fois où on a montré en public le film. Et donc elle m'a donné son livre en disant aussi, qui m'a beaucoup touché, qu'elle a beaucoup écouté ma musique en écrivant. Donc ça, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Donc je me suis mis à lire son livre et que j'ai vraiment adoré. Elle a une plume assez extraordinaire, vraiment un talent. Pour la musique des mots, mais c'est surtout ce récit m'a beaucoup touché parce que c'est un récit qui est très touchant, qui est émotionnel, qui est bouleversant par les enjeux de ces trois personnages, en fait, ces trois narrations parallèles qu'elle décrit dans le livre. Et surtout, je me sens encore une fois très proche à ça parce que je vis dans les Cévennes et donc on vit ces personnages-là, en fait, qui sont... C'est-à-dire, il y a les gens du coin qui ont toujours vécu là-dedans, qui sont des gens qui sont vraiment les habitués, c'est des gens qui sont enracinés dans une mode de vie, même ancestrale, parfois. Et puis après, il y a ceux qui sont pas baignés là-dedans, mais qui sont attirés comme des aimants à vivre ça, à vivre la montagne, aller comme vers le bleu, ou comme Jean-Marc Rochette. Donc moi, je suis un comme ça. Et donc, c'est ce qu'elle décrit. Et puis après, il y a l'enjeu, évidemment, du monde sauvage et l'enjeu du vivant dans tout ça. Et effectivement, dans cette histoire-là, c'est une histoire d'ours. Et ces ours qu'on réintègre dans ces montagnes. Mais après, qu'est-ce qui se passe quand une ours commence à manger les brebis, ceux qui défendent l'ours et puis ceux qui disent, en fait, il faut la buter parce qu'on a toujours fait ça. Mais pourquoi j'ai choisi, en dehors de cette histoire-là et de cette narration-là, parce que c'est un moment d'émerveillement d'un jeune berger qui se bat pour rester berger, pour pouvoir survivre, parce que c'est une vie tellement dure. Et
comme il y en a beaucoup aujourd'hui en France,
c'est
qui se battent pour rester bergère et
voilà.
Berger.
Et donc ça, c'est hyper touchant, mais c'est surtout cette description du berger vers l'environnement autour de lui, et l'émerveillement, encore une fois, qu'il reçoit.
Ça revient.
Qu'il perçoit.
Voilà. Ça revient, cet émerveillement,
c'est
quand
ça.
Même, dans les
oui.
choix.
Oui, avec l'âge.
On vous écoute.
D'année en année, il devenait plus attentif aux moindres variations du couvert végétal, au débit des rivières, au niveau de la neige en avril, à la pluviométrie d'août. Il affûtait son regard sur la montagne et des éléments neufs lui apparaissaient. Un tronc noueux dont il n'avait jamais encore détaillé la courbure, un nid qu'il découvrait dans l'anfractuosité de la falaise, une nouvelle perspective. Il songeait alors qu'on pouvait ainsi sonder une estive comme un monde en soi, en posant un regard toujours plus minutieux sur chaque chose. Cela avait été, pour Jean, l'affaire d'une vie. À l'horizon, le vert dominait, mais il suffisait de regarder à ses pieds pour découvrir une myriade de taches multicolores, les fleurs constellées, les pelouses printanières, le violet des gentianes, le jaune des boutons d'or, puis le bleu du ciel, le noir des roches, une palette chromatique qui évoluerait au fil des jours.
J'insiste juste un tout petit peu, Pierre Sfaccini, parce que le paragraphe que vous avez choisi commence par « d'année en année ». Et puis vous avez dit « oui, l'émerveillement, mais avec le temps ». Vous diriez que ça a été un de vos parcours à la fois de lecteur et de vie. Ce serait d'avoir de plus en plus de place pour ça, ou c'était présent dès le départ?
Non, je pense qu'absolument. C'est-à-dire que je pense qu'au début, il y a un émerveillement. C'est-à-dire
dans l'enfance?
Ouais, l'enfant qui regarde les livres et l'enfant qui reconnaît tous les visages des peintres italiens. Et,
la merveille.
L'enfant qui écoute son père, qui écoute les quatuors de Beethoven. Enfin, c'est genre, what is that? C'est quoi? Mais c'est incroyable, quoi. C'est ça le monde, je veux en savoir plus. Et puis après, il y a l'histoire de la vie qu'on doit subir, une éducation, une sorte de dureté. Et je décrivais un peu cette bataille. Et puis après, il y a une espèce de militantisme. Je décrivais un peu le côté Artaud, Bacon, Deleuze et Guattari, tout ça. Mais après, ce militantisme, je me suis rendu compte que ce que je cherche avant tout, c'est la paix, l'émerveillement et le silence. Et la musique qui percute le silence, en fait. Et il n'y a rien d'autre qui compte. Et cette musique-là, je ne la sens... Elle est au plus fort quand je suis dans les montagnes, et quand j'écoute les oiseaux, quand j'écoute le vent dans les arbres. C'est ça l'émerveillement, et je me rends compte que c'est tellement fort que je n'ai pas besoin d'être artiste. Ce n'est pas très important, en fait. Je pourrais arrêter, ça n'a aucun sens, ce n'est pas grave, parce qu'il y a ça.
Donc c'est vraiment, mais tout naturellement, qu'on termine avec un poème de Rumi, non?
Oui,
ça se pose tout parfaitement sur la branche. Est-ce que vous voulez nous dire un tout petit mot sur le poème que vous avez choisi?
C'est un livre qui s'appelle Le divan de Shams et Tabriz. Et en fait, Rumi, qui est vraiment un de mes poètes préférés, donc poète du XIIIe siècle, soufi, en fait, il a rencontré son ami, dans le sens avec un majuscule, ou son maître, son amant quelque part, qui est cette figure du poète Shams et Tabriz. Et en fait, ils ont une histoire incroyable, et c'est comme si Shams, c'est celui qui fait un peu ce que décrivait Deleuze sur Bacon, c'est-à-dire qu'il enlève l'illustratif et il va direct à la sensation. C'est-à-dire que Rumi, c'était un érudit, et en fait, Shams, il lui montre que l'érudisme, ça n'a rien à voir avec le cœur. Et que le cœur, il est primordial. Et donc, il lui brise son cœur, quelque part. Sauf que, donc, ils vivent cette histoire ensemble, et de façon très passionnelle. Sauf qu'un jour, Shams, il disparaît. Et Rumi ne le revoit plus jamais.
C'est horrible.
Et donc, il va désespérément, et il essaye de le chercher, de le retrouver, et il ne le retrouvera jamais. Et donc, son livre, c'est cette espèce de... C'est à la fois tout ce que Shams lui a apporté et lui a ouvert en lui. Donc, quelque part, il n'y a pas de manque, puisqu'il l'a ouvert tellement que la musique, elle est permanente. Mais en même temps, il y a quand même ce langage très romantique. En anglais, on dit « longing ». Et je ne sais pas comment le traduire en français.
Se languir ?
Ouais, c'est languir, mais...
C'est pas bien.
Ouais, c'est... En tout cas, c'est cette musique-là. C'est « the music of longing », c'est la poésie de longing. C'est longing, c'est quand on cherche la présence de quelqu'un qu'on a perdu. Et c'est irremplaçable, quoi. C'est ça.
Vous allez le lire en français ?
Oui.
Dans la traduction de...
Christian Jambet.
Mais, sans moi, cette traduction...
Ouais.
Il faut juste qu'on remplace dans notre tête le mot « ronce » par « épine ».
Ouais.
Ok ?
Ça marche.
On se quitte là-dessus. Merci beaucoup, Pierre Svacini.
Merci. Moi, c'est de toi seul que je fais choix en ce monde. Consentiras-tu à moi, à ce que je prenne place mélancolique ? Mon cœur est comme le calame au creux de ta paume. C'est par toi que cela se fait. Si je suis morne ou si je suis en joie. Sinon, ce que toi tu désires, que serais-je moi? Sinon, ce que tu manifestes, que verrais-je moi? Parfois, de moi, tu fais pousser des ronces, parfois des roses. Parfois, je respire le parfum de la rose. Parfois, j'arrache les ronces. Moi, je suis comme cela, si comme cela tu me prends. Et moi, je suis comme ceci, si comme ceci tu me désires. Dans cette jarre où tu offres au cœur sa couleur, que serais-je? Que serait-il, mon amour et ma rancune? Tu as été l'origine et tu seras la fin. Fais-toi que meilleure soit ma fin que ne fut pour moi l'origine. Lorsque tu te dissimules, je suis des gens de l'incroyance. Lorsque tu te manifestes, je suis des gens de la vraie religion. Sauf cette chose que tu me donnas, qu'est-ce que j'ai? Que cherches-tu à tirer de ma poche et de ma manche ?
Merci Pierre Svacini d'avoir déballé pour le Book Club de France Culture votre bibliothèque. Au son, c'était aujourd'hui Dali Yaha, à la réalisation Vivien Demeyer. Vous pouvez retrouver toute la liste des textes évoqués et lus par Pierre Svacini sur la page du Book Club. C'est aussi par là que vous pouvez retrouver tous nos portraits de bibliothèque. Un grand merci à toute l'équipe. Le grand amour pour alléger nos cœurs si lourds. Qu'il batte le grand tambour. La lutte est longue, le temps est court.
See you.